Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Photographe franco-suisse, Olivier Folmy voue une affection particulière à l'Asie, d'où il a ramené des images exceptionnelles qui ont fait plusieurs fois le tour du monde. Depuis 2003, il sillonne la planète avec ses assistants pour capter la richesse, la beauté et la diversité. Photographe de la collection Sagesse de l'Humanité, Olivier Folmy est, après plus de 30 ouvrages, un photographe de renommée internationale. Mais ce que je retiens chez cet homme, c'est son humanité. Le rencontrer est un moment plus qu'agréable. Olivier surprend par sa générosité face à l'inconnu.
Attends, on repart au début. Bah, le crayon, bon, déjà c'est l'Asie, hein. Mais le crayon, il est indien. Rouge et noir, ça c'est typiquement un crayon indien. Et ça, je dirais Ladakh. Ladakh, Zanskar.
Royaume du Mustang.
Mustang, d'accord. Ça, le geste, la gestuelle, elle est forcément indienne et tibétaine. Le regard, il est... faciès et tibétain, enfin himalayen. Bon bah ça c'est pas compliqué, hein. Turquoise, moulin de prière et rosaire, plus le tablier de la femme mariée tibétaine, Tibet ou réfugiée tibétaine. Quoi.
C'est ça, réfugiée tibétaine.
Et voilà.
Olivier, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous qui avez pas mal voyagé dans différents pays, notamment l'Asie. Déjà, pourquoi aux origines du voyage avoir choisi de voyager, de quitter la France?
J'ai quitté la France, je sais pas. J'ai quitté la France à 17 ans pour partir vers l'Afghanistan. Je crois que c'était karmique. J'avais un attrait vers l'extérieur, j'ai aimé voyager. Je crois que je suis nomade, je suis né nomade de par un passé qui m'appartient pas, que je comprends pas. En tout cas, enfin, qui existe. Je cherche pas à décrypter le pourquoi du comment. Je suis parti, ça suffit.
Donc très vite, il y avait ce besoin de mouvement, de rencontre d'ailleurs.
D'aventure, au début. D'aventure et puis de me connaître moi. À 17 ans, on ne se connaît pas. J'avais besoin de défis, j'avais besoin de grands espaces, c'est sûr. J'ai toujours été attiré par les grands espaces. La montagne, l'aventure, le risque aussi, l'inconnu.
Et dans ces premiers voyages, dans ces premières aventures, est-ce qu'il y avait une ligne rouge, un fil conducteur, ou c'était juste partir pour partir, ou il y avait déjà en tête peut-être aller à la rencontre d'un peuple, d'une ethnie?
Non, rien du tout. J'étais aussi perdu que n'importe qui à cet âge-là. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais montagnard, j'aimais la montagne, j'aimais l'effort. Et je voulais devenir guide de montagne. Je suis parti en Afghanistan pour faire une ascension. Là-haut, avec des amis qui faisaient une expédition à 6000 mètres, faire une face rocheuse, ça m'a tiré vers le haut. Mais après, quand je suis revenu ici en Europe, j'étais très mauvais à l'école, j'étais pas fait pour tenir sur un banc d'école. J'étais curieux du monde, mais j'étais pas un intellectuel. J'étais un homme sensible, d'ailleurs c'est pour ça que je suis parti vers un chemin artistique après. Et j'aimais l'homme, j'aimais la rencontre, j'étais très sociable. Donc à l'époque, je mesurais pas tout ça, évidemment. Simplement, je me laissais guider par cet instinct de rencontre. Mais je vous dirais que, je vous avouerai, quand je suis parti à 18 ans, j'étais complètement largué. Quoi. Je suis parti routard, sac au dos. Je suis parti avec un bus depuis Genève, de hippie, c'était la route des Indes. Tout le monde fumait, se piquait dans ce bus jusqu'en Inde. J'aurais très bien pu virer comme l'un d'eux. J'avais pas le discernement, j'étais faible. Si on m'avait proposé peut-être de faire l'expérience de me piquer, je me serais peut-être piqué. Je l'ai pas fait, pourquoi? Parce que la vie est bien fichue. Déjà, peut-être j'avais pas non plus cette aptitude-là quand même. Et surtout parce que j'ai fait le voyage avec un Américain qui avait fui la guerre du Vietnam et qui était évidemment un déserteur aux États-Unis, qui vivait de petits métiers en Europe et qui, dès qu'il avait assez d'argent, il voyageait. C'était le vrai hippie, quoi. Et j'adorais cet homme. On discutait, on était tranquille ensemble. Et arrivé à Kaboul, il m'a dit, toi, t'es pas fait pour rester avec ces gens-là. C'est pas ton monde. Et quelque part, je lui dois ce que je suis devenu. ce qui m'a sorti de ce monde-là. Il me dit, il faut qu'on parte, tout ça, tous ces gens-là, ils vont mourir d'overdose. Toi, tombe pas là-dedans, quoi. On part et on part en aventure. Il m'a relié à ce que j'aimais, à l'aventure, quoi. Et curieusement, c'est joli la vie, parce que l'an passé, avec Internet, j'ai reçu un mail. On se connaissait, on a passé quoi, 4 mois ensemble, le voyage dans l'Himalaya. Mais on s'appelait que par nos prénoms, on se connaissait pas par nos noms. Et un jour, je reçois un mail l'an passé, il me dit, est-ce que ce serait pas toi l'Olivier de l'Afghanistan? Parce qu'il avait fait des recoupements, tout ça. Et c'était ce Roy, là, d'Américain, avec qui j'ai pu me relier par Internet. Donc c'était magnifique, quoi, bien sûr. Ouais, fantastique, quoi.
Toi-même dans ce bus qui part de Genève pour l'Orient, dans quelle année là ?
76. Donc c'était dans la pleine période de la route des Indes. Hein.
Il y avait déjà beaucoup de monde sur les routes, on rencontrait beaucoup de gens à ces époques-là, quand on quittait un petit peu les axes principaux.
Non, on rencontrait pas beaucoup de monde. Il y avait la logique de partir en Inde, Katmandou, Manali, Goa, pour fumer, expliquer. C'était la route des Indes, mais des vrais voyageurs, non, parce que c'était pas encore dans l'air du temps, il y avait pas encore le guide de... Enfin, l'époque du guide du routard commençait. Mais malgré tout, l'Inde n'avait pas cet attrait auprès de notre jeunesse, hein, en dehors de la drogue. Ouais. Ou bien du mysticisme avec les sadhus, enfin c'était tout lié, quoi. Ouais.
Je vais revenir sur le mot « voyage ». Si tu devais l'expliquer à quelqu'un, ton enfant, papa, c'est quoi le voyage ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Comment tu m'expliquerais ce que c'est que voyager ?
Le voyage, si je devais donner un seul conseil, je me rallierais à une phrase d'un maître soufi qui dit « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu ne pourrais pas te perdre. » C'est ça le voyage, quoi. C'est y aller, partir. Lâcher prise, laisser venir. Donc, laisser la vie offrir des cadeaux et s'offrir à soi-même des cadeaux. Lâcher prise soi-même pour se découvrir un autre dans d'autres circonstances et accueillir l'autre, accueillir les vérités de l'autre. Enfin, oublier ce bagage que l'on traîne de 2000 ans et plus, de connaissances, de certitudes. Oublier tout ça, lâcher. Partir en voyage, c'est partir sans bagage, mais sans bagage intérieur.
Donc vraiment lâcher aussi ses croyances, faire un peu comme une délite son disque dur intérieur pour pouvoir...
Oui, disque vierge. Avec, non pas tout à fait vierge, on a une culture, on a des racines. Lâcher ne veut pas dire renier, c'est très différent. Ne surtout pas renier, mais s'ouvrir. Donc on a une base, toute base, quelle qu'elle soit, est belle, c'est une base. Il faut toujours une terre ferme pour démarrer de quelque chose. Donc renier sa culture, rejeter sa culture, ses origines, son passé, sa famille, c'est toujours être plus dans un marais mouvant, quoi. Donc tout ça, le rejet n'a aucun sens pour aller plus loin, il entrave. Par contre, se cantonner à sa base, eh bien c'est la non-ouverture. C'est-à-dire ça veut dire se profiler dans une certitude que l'on a raison. Et pour moi la base du voyage, c'est penser que l'on a une des raisons, pas plus.
Olivier, si aujourd'hui on va sur internet, on tape Olivier Folmy dans Google, on va avoir des photos qui apparaissent. À quel moment dans votre parcours là, l'image est venue et la photo vous est venue?
J'ai jamais pensé devenir photographe. J'ai jamais pensé que je serais capable d'être photographe. Pour moi, c'était un... Je sais pas, j'avais un idéal. Faire des livres, c'était quelqu'un qui avait réussi, qui avait quelque chose à dire. Moi, j'ai rien à dire. C'était pas à mon niveau, c'était pas à ma hauteur. Donc je ne visais pas, j'étais pas ambitieux. Par contre, j'étais ambitieux de réussite. Par contre, j'étais ambitieux de vivre. Et ça, c'est ça qui m'a animé. J'avais une envie de vivre, je dévorais la vie. Et la relation, je ne ménageais pas. D'ailleurs, j'aurais dû mourir depuis longtemps. J'ai pris des risques énormes dans ma vie. Je suis toujours étonné d'être encore en vie. Mais quelque part, ben, je serais mort par envie de vivre et j'aurais eu bien raison, quoi. Donc je n'aurais pas été triste de mourir. J'aurais vécu et j'ai vécu. Donc la photographie a été une envie de partager ce que je vivais. Tellement j'étais passionné. C'était mon manière de communiquer et l'intensité de ce que je vivais. Et c'est comme ça que je suis venu à la photographie. Et après, ben, j'ai appris à cultiver un regard plus esthétique qui était en moi, que je ne connaissais pas. Je vous dirais que je suis un enfant gâté de la vie parce que j'ai jamais choisi, quelque part. Je me suis laissé aller à mes aspirations, à libre cours, ce que je voulais, ce que je pensais. Peut-être, ce qui m'a sauvé, c'est que je n'avais pas d'ambition de réussite. Donc j'étais prêt à vivre simplement, humblement, mais à vivre. J'étais prêt à payer n'importe quel prix pour ça. Et donc finalement, ça m'a permis d'être moi-même et d'être intègre. Et donc de réussir à faire connaître un regard, à découvrir un regard, parce que j'étais moi-même. C'est comme ça que je suis devenu photographe.
Qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître ce regard? Parce qu'aujourd'hui, moi, dans une librairie, forte chance qu'on tombe sur un bouquin d'Olivier Folmy qui présente de magnifiques photos. Pour que ce bouquin arrive dans cette librairie, tout un travail, tout un processus avant.
Tout ne m'appartient pas. Moi, j'ai fait ma part de passion, de travail. Il y a du travail derrière, il n'y a pas de mystère. Personne ne réussit sans travail, quel que soit le domaine. Mais il faut une part de chance aussi, et d'ouverture, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. On grandit jamais tout seul, et les gens qui vous aident dans la vie à grandir, comme on a le devoir aussi d'aider les autres à grandir, tout ça c'est une belle chaîne, et je revendique pas mon succès relatif, je n'ai qu'un succès de photographe dans mon village, mais je ne le revendique pas moi tout seul, j'ai grandi grâce aux autres aussi. Et il y a des concours de circonstances aussi, je suis né aussi à la bonne époque, à transmettre ce message, peut-être que 30 ans plus tôt, ce message ne serait pas passé. 30 ans plus tard, il aurait été obsolète, je ne sais pas. Il y a un concours de circonstances qui fait que, voilà, je dis, je suis un enfant gâté par la vie, je suis bien né, oui, bien sûr. Mais attention, je travaille.
Vous dites faire passer le message, un message, c'est quoi ce message?
Le message, c'est ce que je reçois des gens. Moi, je suis passeur. Mon métier de photographe je ne témoigne pas. Je suis pas un témoin du monde. J'ai jamais voulu dire les gens là-bas vivent comme ci, mangent comme ça. Je suis pas un reporter documentaire. Je suis pas un journaliste qui dénonce des causes. Sans critique, hein, il faut le tout et tout est important, tout est nécessaire. Simplement, ma place n'est pas là. Ce n'est pas ma personnalité. Moi, je suis photographe tout simplement parce que je suis passeur d'émotions. Je reçois, je veux vivre des choses intenses avec les gens. Et je veux les transmettre. Et mon travail photographique me sert à ça, tout simplement. Donc c'est pour ça que je ne revendique pas une image. Une image que je prends, elle ne peut pas m'appartenir parce que je la prends. On me la donne pour que je la prenne. Donc ce n'est pas ma photo, c'est la photo de quelqu'un d'autre que je prends. Donc cette énergie positive qui me transmet dans cette photographie, ce sourire, ce regard, il y a quelque chose qui va plus loin que l'image. Ce n'est pas simplement une image sur un papier, il y a quelque chose qui rayonne de tout ça. C'est comme une musique, c'est comme un art, c'est un domaine sensible. Donc quelqu'un qui partage cette sensibilité de celui qui m'a offert cette image, il va la recevoir, cette sensibilité, en voyant l'image. Donc il y a échange, il y a transmission. Et pour moi, il y a transition de beauté, il y a transition de sagesse, d'énergie, d'espoir, d'espérance. Voilà. Et ce que quelqu'un m'a offert là-bas, eh bien, ma joie est de contribuer à le passer avec des gens qui le reçoivent ici. Ça, c'est ma place de photographe.
Et faire naître des émotions dans le regard de celui qui l'est.
Oui, c'est susciter une émotion. C'est être passeur, tout simplement. Passeur d'un sourire, sourire soi-même et pas l'accaparer pour soi. Je suis pas photographe pour bien vivre. J'ai la chance de vivre de mon métier de photographe, d'avoir ma liberté de vivre de ce travail, bien sûr. Mais ce n'est pas mon but ultime. Mon but ultime est d'être passeur. Quelles que soient les répercussions que je puisse en avoir personnellement pour ma vie, je dois contribuer à l'œuvre. Je fais partie de l'œuvre. Et ça, mon rôle est simplement de contribuer au chantier de l'humanité, simplement d'avoir une pierre et de poser la bonne pierre au bon endroit. Et donc mon travail de photographe ou de vie, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'aller vers les gens qui me tirent vers le haut, dénoncer les conflits. Bien assez de gens s'en chargent et c'est important de le faire. Mais attention, j'estime que à un moment donné, ça devient une manipulation médiatique. On ne fait que dénoncer le négatif, les gens qui vont pas bien, les conflits, les violences, les procès, enfin tout ce qui tire vers le bas, quoi. Et le monde, c'est pas que ça, quoi. C'est quoi? C'est peut-être 20% du monde qui est comme ça. Mais 80% du monde sont comme vous et moi. On construit nos vies tranquillement, sereinement. On aspire tous à de l'amour, à travailler, à avoir un emploi, se passionner, construire une maison, une famille, des enfants. Enfin voilà, à bien vivre et bien mourir. C'est ça le but de l'humanité. Et c'est les trois quarts de l'humanité qui sont comme ça. Donc moi, j'ai passé ma vie à rencontrer des gens comme ça. Simples. Mes plus grands maîtres sont les gens dans les champs. Tout simples, qui ont été capables, avec une vie dure, mais la vie est dure. Donc si on se focalise sur les difficultés de la vie, on la perd, cette vie. Il faut accepter que la vie, quelque part, est difficulté, souffrance. Mais que dans cette souffrance, il y a aussi du bonheur. Il y a aussi quelque part, une quiétude. Et tout ça est interdépendant. Donc il faut transcender ce domaine de revendication. J'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis malheureux. Non, il faut aller plus loin que ça. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont ébloui alors qu'ils avaient rien et qui étaient heureux. Donc ces maîtres-là m'ont appris que, quelque part, le mal-être, il est avant tout dans la tête. En tout cas, en Occident, pour moi, il est essentiellement dans la tête. Je ne peux pas admettre qu'on se plaigne en Occident. On a tout ici, on a tout. Par contre, je conçois qu'il y a un prix à payer en Occident et que ce prix est trop cher. Donc il génère un mal-être. Mais dans le fond, la base est fausse. On a tout ce qu'il faut. Hein. Ranki semni yongsudu dini sangden bayin semche tamche dewa tamde. I'm Le bonheur commence par le matériel, mais ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que quand on a l'eau courante chez soi, il suffit de tourner un robinet, on allume l'électricité, on tourne un bouton, ça s'allume. On est dans un climat tempéré où tout pousse. On n'a pas un flanc de montagne qui nous dégringole sur la tête. On a des routes impeccables. Tous nos enfants vont à l'école. Quand on est malade, on est soigné. On a le bonheur. Après, si on est malheureux, c'est une autre étape. Et là, elle n'est pas matérielle, elle est dans la tête. Mais ça se travaille.
Tu aurais des clés, justement, pour pouvoir travailler ça, si on a justement toute cette accessibilité au confort, au matériel, et pourtant on ne se sent pas forcément heureux dans son quotidien. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver ce bonheur intérieur ?
Il y a des clés partout. La seule clé qui existe, c'est celle qu'on a en soi. Il suffit d'ouvrir la porte. Et rester tout ouvert, ouvrir les fenêtres en soi. Après, il y a un tas d'écoles spirituelles, de foi, dans toutes les traditions, thérapeutiques, psychologiques, à travers des penseurs. Voilà, il y a un tas de possibilités de comprendre l'ouverture et de pas se recentrer sur ses petits problèmes personnels. On a une grande chance en Occident d'avoir ce monde psychanalytique qui est très développé, que nos générations, les générations de nos parents n'avaient pas. La thérapie, tout ça, sont des fonctionnements extraordinaires pour justement décanter nos casseroles, enfin, à un moment donné, faire la part des choses. On a des outils psychologiques, une compréhension, une ouverture extraordinaire. Et en ça, j'aime l'Occident, qui s'intéresse à cette approche humaine, psychologique. Après, il y a aussi les outils de la méditation qui viennent de l'Asie. Il y a les outils de la communauté qui viennent de l'Afrique, de la joie de vivre qui viennent de l'Amérique latine. Il y a un tas d'écoles pour nous ouvrir à la vie et sortir de son petit soi. Il y a un tas d'écoles. Après, il faut choisir celle qui nous correspond, c'est tout.
Avec Daniel et d'autres d'une équipe, vous avez travaillé sur un projet Sagesse d'humanité qui revient un petit peu à ce que vous êtes en train de raconter, hein, trouver à travers des clés pour accéder à ce bonheur intérieur.
Ce projet des Sagesses d'humanité, il est né comme tout le reste de mon travail, naturellement. J'ai jamais réfléchi à me dire ça, c'est un bon plan, faut le faire. Non, c'est le bon plan. Le bon plan, c'est de vivre, quoi. Donc, le projet Sagesse est né tout simplement parce que j'ai passé 20 ans en Himalaya. J'ai fait une série de livres sur l'Himalaya. Et ensuite, j'ai adopté des enfants tibétains avec Daniel. Et ces enfants sont devenus adolescents. J'ai eu le désir de leur transmettre ce que nous avions compris, aimé de ce monde bouddhiste himalayen, avec des termes occidentaux, puisque ces enfants étaient nés en Occident, enfin avaient grandi en Occident. Donc on a décidé de faire ce livre offrande pour les enfants, pour nos enfants, en relation avec des images pour le rendre plus attractif, des images d'Himalaya, pour les relier à ce monde tibétain qu'ils ne connaissaient pas. Et ensuite, je me suis dit, mais finalement, ce livre ne concerne pas que nos enfants, il concerne peut-être beaucoup de gens qui s'intéressent à cette philosophie et cette religion tibétaine. Donc voilà, on l'a publié. Et ensuite, c'était un travail passionnant, rien que pour nous-mêmes, d'aller au cœur, d'essayer de trouver 365 pensées qui correspondaient à ce que nous ressentions, ce que nous avions appris de ce monde himalayen, de quoi il nous avait fait grandir, pour le transmettre, justement. Et après ce livre, on s'est dit, mais le bouddhisme, bien sûr que c'est notre parcours, d'accord. Mais toutes les autres traditions aussi ont des choses à apporter. Et le monde entier, l'humanité entière a des réponses dans tous ces questionnements. Parce qu'on était parti, comment on faisait ce livre pour nos enfants? On se disait, mais qu'est-ce qu'on aimerait transmettre à nos enfants sur des valeurs que tous les parents se posent, d'éducation, de transmission, de ce qui est bien, ce qui est pas bien, la foi, la vie, la mort, la naissance, l'adolescence, les problématiques de la vie en général, que toute l'humanité se pose. Et donc, on est parti sur ces bases de questions. Et après, on s'est dit, mais toute l'humanité a des réponses par rapport à ces questions différentes, puisque les cultures sont différentes. Et c'est ainsi que on est parti vers le projet des Sagesses de l'humanité pour savoir quelles étaient les réponses dans chaque culture. Money. J'en ai plein. C'est pas, mon souci n'est pas d'avoir des projets, c'est d'avoir du sens à mes projets. Donc je veux vraiment poser les choses tranquillement pour que ce que je vais entreprendre ait du sens dans ma vie. Faire à tout prix, réussir un projet, non, c'est pas intéressant pour moi. Que réussir ? Bien sûr, réussir est une chose qu'il faut viser. On fait pas un projet pour le rater, évidemment. Mais le but n'est pas que de réussir. Il faut qu'il y ait du sens. Réussir sans sens, c'est un échec pour moi.
Donc du sens et de la sagesse. Enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui en écoutant ce que vous dites.
Du sens. Que ce soit cohérent, que ça parle à des gens. Enfin voilà, je reste dans cette cohérence de transmission. Je cherche pas... J'ai pas un besoin de reconnaissance dans mon travail. C'est sans fin tout ça. Je suis très satisfait de mon travail. J'ai 35 livres publiés derrière. J'aurais aimé qu'à 20 ans, on me dise que un jour j'aurais 35 livres derrière moi. Ça m'aurait tellement rassuré. Donc, je peux n'être que satisfait de ça. C'est pas 50 livres qui vont me rendre plus satisfait. Enfin, ça ne veut rien dire. Et puis même, de toute façon, qu'est-ce qu'un livre et qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Non, globalement, je suis satisfait de mon parcours. J'ai vécu des choses qui m'ont passionné. J'ai eu une vie passionnante. J'ai envie de vivre encore. Simplement, je veux pas dévorer la vie. C'est pas la consommation pour moi. Je veux pas partir dans tous les sens autour du monde par un esprit de jeune premier qui veut pas s'arrêter. Je veux bien repartir. Mais pour qui, pourquoi ?
Merci Olivier.
Merci à vous.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.